Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des sujets qui vous concernent avec Lionel Favreau, comme tous les jeudis soirs. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Hugo.
Directeur de la rédaction de Mac de Lyon et notre invité ce soir, Alexandre Vincendet, député du Rhône, ou devrais-je dire ex-député Les Républicains.
Toujours Les Républicains.
Toujours Les Républicains, mais pas dans le groupe à l'Assemblée. On va en parler, parce que vous avez été exclu donc hier du groupe parlementaire lors d'une réunion pour, je cite, des prises de position répétées et systématiques en faveur du gouvernement à l'encontre de la ligne de notre groupe politique.
Mais déjà, ce communiqué est faux.
Bon, alors on va y revenir.
Je suis désolé de dire, puisque en fait, on en parlera de la réunion qui s'est tenue hier,
voilà.
On m'a jamais reproché mes prises de position en faveur du gouvernement, ni mes votes d'ailleurs. On m'a simplement reproché de défendre une possible candidature d'Édouard Philippe en 2027 de façon trop répétée. On en reparlera. Mais vous voyez déjà le communiqué qui vous a été donné. Je suis désolé de le dire. Le vice-procureur Marleix, tel qu'il l'a souhaité le faire écrire par ses équipes, ment et hontément. Ça, c'est une réalité.
Le président du groupe à l'Assemblée républicain. Ce qu'on vous reproche notamment, quand même, c'est d'être apparu sur un tract, donc Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et d'avoir participé à une réunion du mouvement sur
la sécurité. Le 20... Alors non, pareil. Je n'apparais pas sur un tract. Pour tout dire, faut que les choses soient très claires.
C'est une invitation. Oui, c'est une invitation.
Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je suis invité à Bourg-en-Bresse par des élus d'opposition qui siègent aujourd'hui au conseil municipal. Le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, est socialiste. Il a gagné la ville de mémoire en 2008. Il en est donc à son troisième mandat. Aujourd'hui, au sein du conseil municipal de Bourg-en-Bresse, il n'y a plus d'élus d'opposition LR. D'accord ? Mais ce sont des élus, pour beaucoup, qui ont appartenu à notre famille politique, je pense,
et qui s'en sont éloignés.
Ils organisent une soirée débat municipale, même pas européenne, pour débattre du rôle des polices municipales en France, notamment dans les communes d'agglomération, et sur les problèmes de sécurité, comment peut-on les régler en tant que maire.
Et vous êtes co-rapporteur de la mission d'information.
Je suis co-rapporteur d'une mission parlementaire. Je suis co-rapporteur d'une mission parlementaire sur les polices municipales. J'ai encore d'ailleurs vu Madame Dominique Faure, la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales. Et on va avancer, j'en suis convaincu, sur un texte législatif qui s'appuiera sur notre rapport dans les mois qui viennent. Et de l'autre côté, vous n'aurez pas échappé que j'étais maire de Rieux-la-Pape, qui était une commune de banlieue, que je suis toujours très impliqué à Rieux-la-Pape, aux côtés de Julien Smaty, son maire, qui m'a succédé, de toute l'équipe municipale qui m'entoure, et que sur les questions de sécurité... J'ai une petite expérience. Et donc
pour vous...
j'ai voulu aller débattre, simplement débattre, comme ça se fait dans toute l'histoire de notre famille politique. Vous savez, Xavier Bertrand, quand il était secrétaire général de notre mouvement, est allé débattre à la fête de l'UMA. Il y a des débats dans d'autres formations politiques. Alors, Rachida Dati, vous me direz, elle est aujourd'hui au gouvernement, mais elle est allée débattre dans d'autres formations politiques, y compris de gauche. Vous savez, je vais vous dire, à la fin des fins, si j'étais allé débattre avec Mathilde Panot... représentante de l'extrême gauche ou de Jordan Bardella, représentante de l'extrême droite, personne n'aurait rien dit. C'est là le fond du problème.
Pour vous, c'est pas une invitation à un meeting commun.
C'est pas un meeting commun, c'est une soirée débat pour pouvoir justement débattre. Et j'y allais d'ailleurs, je m'en suis pas caché. Vous pouvez regarder sur l'invitation qui a été faite par ces élus d'opposition à Bourg-en-Bresse. Encore une fois, où il n'y a plus d'élus LR, c'est dire.
Vous êtes le seul LR sur l'invitation.
Je suis. Bah oui, j'y vais en tant que député LR. Oui. En tant que député de la nation, puisque en tant que député, je ne suis pas cantonné à ma circonscription.
Donc c'était pas une trahison de trop pour vous, c'était plutôt l'occasion qu'a fait le larron pour eux.
Mais d'ailleurs, quand on parle de trahison, oui, c'est pareil, quand on parle de trahison, enfin, excusez-moi, mais Laurent Marcangeli, président du groupe parlementaire Horizon à l'Assemblée nationale, que je connais bien, mais il a été député UMP, d'accord, de 2012 à 2017. Il a été maire LR et UMP d'Ajaccio. Enfin, excusez-moi, c'est pas un dangereux gauchiste de la France insoumise.
Donc vous attendiez...
Édouard Philippe, et encore une fois, on en reparlera aussi, et c'est pas moi d'ailleurs qui le dis, j'aime citer les grands auteurs. Gérard Larcher est un des grands auteurs de notre famille politique, puisque Gérard Larcher, il est président du Sénat, et c'est chez LR le plus haut gradé, deuxième personnage de l'État. Je le cite, et j'aurais pu parfaitement dire la même chose. Il a dit en septembre 2023, Édouard Philippe, bien sûr qu'il fait partie de notre famille politique, et je ne le dis pas du bout des lèvres. Et le moment venu, en fonction de la situation politique et du projet présenté aux Français, peut-être qu'il faudra se ranger derrière lui. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais voyez, donc je ne suis pas le seul à dire qu'Édouard Philippe fait partie de notre famille politique, qui fait partie de la grande famille de la droite et du centre.
On va parler d'Édouard Philippe dans un instant. Juste sur cette décision d'être exclu du groupe parlementaire, est-ce que vous avez fait appel?
L'appel va arriver dans les jours prochains. J'ai 8 jours pour faire appel. ce qu'on a vécu hier, enfin, qu'est-ce que j'ai vécu, malheureusement, j'aurais aimé que ceux qui nous regardent et que d'ailleurs voilà, la presse puissent y participer, ils auraient vu une reconstitution de procès stalinien dans la plus pure tradition de ce qui se passait à Moscou lors de l'ex-URSS.
Pourquoi ?
Pour une bonne et simple raison, pour tout vous raconter. Déjà, oui, déjà le communiqué.
Parce que donc il y a eu 13 votes pour.
Mais attendez, ça dépend dans ce que dit la presse, si vous regardez selon les articles. Parce que moi, je n'ai pas le décompte. C'est la presse qui a le décompte. Il n'y a pas. Lors de cette réunion du bureau du groupe où j'ai été auditionné, il n'y a pas de compte rendu. Il n'y a pas de procès verbal. On voit dans la presse. Alors il y a toujours deux votes contre mon exclusion. C'est d'ailleurs. Je sais qui l'a fait. C'est Jérôme Nury. C'est Jérôme Nury et Virginie Dumuller qui étaient présents. Mmh. Je rencontre Olivier Marleix. Dans le cadre des statuts, d'accord, il faut qu'il y ait une convocation du président du groupe pour un entretien préalable. Bon, déjà, j'ai pas eu de convocation en bonne et due forme. Vous demandez la convocation à Olivier Marleix, il ne vous la donnera pas parce qu'elle n'existe pas. J'ai une secrétaire qui a appelé un de mes collaborateurs pour dire le président souhaiterait pouvoir discuter politique avec Alexandre Vincendé. Je m'en rends à l'invitation de l'Imarex pour discuter. Nous avons un désaccord politique. Lui m'explique que je ne dois pas dire qu'Édouard Philippe est dans notre famille politique. Je lui dis que je ne suis pas le seul, qu'une famille politique est faite pour rassembler et qu'au vu de la situation du pays, je ne suis pas le seul à défendre cette ligne. Nicolas Sarkozy la défend, Jean-François Copé... Gérard Larcher, le problème, c'est qu'il ne peut pas les virer parce qu'ils sont membres à vie du parti, ou en tout cas, ils sont membres des instances de droit. Voilà, donc ça, c'est compliqué.
C'est un peu plus compliqué.
Mais moi, on me dit, oui, mais eux ne sont pas députés, toi, tu l'es. Oui, mais à partir de là, j'ai quand même une liberté d'expression garantie par l'article 3 des statuts du groupe. L'article 3 dit, les députés au sein du groupe, qui siègent au sein du groupe, ont une liberté de vote et une liberté d'expression. D'accord ?
Donc, elle n'est pas respectée aujourd'hui.
Aujourd'hui, elle n'est pas respectée. Moi, ce qu'on m'a dit, grosso modo, à la fin, c'est qu'il y a deux solutions. Soit tu baises la babouche de Laurent Wauquiez, soit tu pars. J'ai dit, écoutez, je suis désolé. Moi, à partir de là, je vois pas pourquoi je me plierais. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette façon de faire, de menacer les gens pour soutenir tel ou tel. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la droite républicaine. J'ajoute. Que donc le lendemain, on réunit...
Parce qu'on va revenir après sur Laurent Wauquiez.
On réunit un bureau du groupe suite à une convocation. Encore une fois, convocation qui n'existe pas. On me dit, on vous exposait les griefs. C'est pas un grief, c'est un désaccord politique. C'est pas un drame dans une famille politique d'avoir des désaccords. Et à droite, Dieu sait qu'il y en a eu. Et je me retrouve devant une convocation de bureau. Je demande qui sont les membres du bureau. On ne me donne pas la liste. Je vois que dans la convocation du bureau, que certains de mes amis parlementaires me transmettent, il n'y a pas d'ordre du jour, c'est-à-dire que les personnes qui étaient convoquées ne savaient même pas pourquoi elles venaient. D'accord ?
Et bon, certains elles devaient membres... le savoir, certainement.
Non, parce que certains membres, entre vous et moi, certains membres en plus, étaient bizarrement à l'étranger. C'était plutôt des personnes en déplacement parlementaire, c'était plutôt des personnes qui m'étaient favorables. Il y a des personnes, d'ailleurs, apprenant ça, disent « Mais nous, même si on ne peut pas être présent, on souhaite pouvoir voter pour le maintien d'Alexandre Vincendé. Leur pouvoir n'a pas été pris en compte, contrairement à d'autres. » Et je me retrouve à attendre devant une porte à 11h15, où Olivier Marleix me dit « Non, tu ne rentreras pas, tu me laisses d'abord parler au groupe. » Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes le vice-procureur Marleix plaide et sonne la charge, je ne suis pas présent pour entendre. Je rentre dans la salle au bout d'un moment, où je me retrouve devant un certain nombre de mes collègues qui ont un dossier entre les mains. Je n'ai pas accès au dossier. On m'assoit, pas derrière une table, comme je suis ici, mais sur un coin, sur le coin d'une table, d'accord, avec une chaise, pour pas que je puisse poser mes documents. Je défends ma cause, ce qui est normal. On me pose quelques questions, et au bout de 25 minutes, le président Marleix, plutôt le vice-procureur Marleix, dit « Bon, allez, on va pas y passer la journée, maintenant ça suffit. » Enfin, excusez-moi, si ça, c'est pas un procès...
Donc c'était décidé d'avance, c'est ce que vous dites.
Voilà, on va arrêter 30 secondes.
Mais vous avez l'impression d'être tombé dans un piège ? Parce que c'est ce que vous avez l'air de décrire.
Mais c'est pas un piège. Vous savez, c'est la reconstitution du comité de salut public. Qu'est-ce que c'est le comité de salut public ?
Non, mais on a compris les références historiques.
C'est simplement qu'à la fin...
Très clairement, vous avez lâché le nom tout à l'heure. Vous pensez que c'est un piège monté par Laurent Wauquiez et ses proches ?
Je pense simplement qu'à un moment, vous êtes...
Vous voyez la main de Laurent Wauquiez derrière votre exclusion.
Excusez-moi, mais Olivier Marleix est un soutien. Quand je dis vice-procureur Marleix, c'est que vous savez que dans les procès de Moscou, le vice-procureur, c'est celui qu'on voit devant... Puis celui qui donne l'ordre, on ne le voit jamais. Voilà.
Vous ne vous attendiez pas à cette réaction à ce niveau-là ?
Est-ce que vous avez
l'impression d'avoir joué un peu avec les limites, puisque Éric Ciotti vous
joué
dit,
avec quelles
vous,
limites ?
Vous dites que Éric Ciotti dit que vous étiez dans l'ambiguïté. Vous
n'avez aucune ambiguïté
ou pas ?
Regardez, ils ont déposé un RIP, un référendum d'initiative populaire. J'ai signé le RIP. J'ai voté la réforme des retraites, comme le président Ciotti, contrairement à d'autres qui, eux, ont voté une motion de censure. Et j'y reviendrai. J'ai voté la loi immigration, comme l'ensemble de mon groupe. Oui, sur certains votes, je me suis démarqué. Quand, par exemple, il y a eu la motion de rejet sur la motion sur la loi immigration, je m'y suis opposé. Nous avons été deux à voter contre et une vingtaine de parlementaires sur les 62 ne l'ont pas voté, contrairement aux consignes du groupe, parce qu'on estimait que voter avec la NUPES et créer une tension sur un texte essentiel, c'était une erreur politique. Bref, on n'a pas été d'accord là-dessus. Mais il y a eu des désaccords sur la réforme des retraites. Monsieur Pradier a voté une motion de censure contre l'avis du groupe et contre une décision du bureau politique de soutenir la réforme des retraites, alors qu'il s'y était engagé. Il n'y a pas eu de sanction. J'ajoute qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une ligne politique qui est impulsée. Nous sommes un certain nombre à défendre un large rassemblement dans l'esprit des pères fondateurs de l'UMP. Vous savez d'ailleurs, suite à ce qui s'est passé hier, j'ai même eu un appel de Nicolas Sarkozy. Et donc pour vous dire que je verrai dans les prochains jours, j'ai pas l'habitude de dévoiler les conversations que je peux avoir avec le président Sarkozy. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je le verrai dans les prochains jours et que nous pourrons discuter de la situation de la droite républicaine.
Mais il vous a soutenu par rapport à ce qui s'est passé à votre exclusion.
Il défend depuis des années la position que je défends. Jean-François Copé la défend aussi. Il a déclaré d'ailleurs dans le Parisien qu'il était assez atterré de voir ce qu'ils étaient en train de faire, de ce qu'il restait de notre famille politique. Et je tiens à le dire, moi je suis profondément peiné de voir ma famille politique. Je n'ai connu que celle-là. Je me suis engagé en 2002 suite à l'élection de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. J'ai défendu Nicolas Sarkozy et tous les autres candidats qui ont suivi. D'accord ? J'ai participé à un certain nombre de crises. J'ai été stagiaire, j'ai commencé comme stagiaire au sein de l'Assemblée nationale, au groupe sous la présidence de Jean-François Copé, que j'ai suivi ensuite au parti. J'ai fait partie, comme d'autres, de l'affrontement entre Jean-François Copé et François Fillon. Et pour autant, en 2017... j'ai fait la campagne de François Fillon et j'ai fait les campagnes successives. J'ai toujours été loyal à ma famille politique, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation inédite.
Vous pensez qu'il faut un exemple parce que vous avez remis en cause la capacité de Laurent Wauquiez à représenter votre mouvement pour la prochaine présidentielle. Attendez, c'est ça le fond du problème.
Le problème, c'est que vous avez aujourd'hui un président de parti, un président de groupe, qui nous explique qu'il y a un candidat naturel.
Laurent Wauquiez, donc.
J'ai un candidat naturel. J'ai un désaccord profond avec cela. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études d'opinion et pas... une comme ça qui se balade. Mais étude d'opinion après étude d'opinion, le candidat soi-disant naturel est à 4,5% dans les sondages. Excusez-moi, mais quand vous êtes à 4,5%, vous êtes nu, excusez-moi le terme, vous êtes un peu à poil. C'est plus le candidat naturel, c'est le candidat nudiste. D'accord ? Et au-delà de ça, de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui s'appelle Édouard Philippe, issu de la droite républicaine, qui a été directeur général de notre mouvement, l'UMP, à sa création, qui a été député maire UMP du Havre, qui est un homme...
Premier ministre, Emmanuel Macron.
D'accord, mais aujourd'hui... Enfin, excusez-moi, c'est pareil, Édouard Philippe, c'est pas un dangereux gauchiste. Ce que je pense au fond de moi, comme beaucoup d'autres de mes collègues, c'est pour ça que mon cas n'est pas important, c'est ce qui se joue au-delà de ça, disent qu'aujourd'hui, on a une situation inédite. Le Front National, ou le Rassemblement National, est aux portes du pouvoir en 2027. Si pendant 3 ans, nous sommes dans un blocage institutionnel, dans le jeu des petites ambitions personnelles, d'accord ?
Chez LR, hein, vous dites.
Mais notamment chez LR. Mais je suis, encore une fois, je ne suis pas le seul sur cette ligne-là que je défends. Si nous sommes uniquement sur cette ligne-là à bloquer le pays, les Français pourront dire que la classe politique dans son ensemble n'a pas souhaité travailler pour trouver des solutions à la crise de la dette qui est devant nous. Il y a un vrai problème. Au problème d'emploi, de pouvoir d'achat, sur l'inflation, sur la crise écologique, sur la crise agricole, sur la souveraineté industrielle et alimentaire, enfin tous ces sujets-là qui sont structurants, d'accord ? Et que donc, au bout d'un moment, les Français vont dire la classe politique dans l'arc républicain ne fait pas son travail, on renverse la table et on part à l'aventure.
Mais donc, je
ne veux pas de ça pour mon pays, première chose. Et deuxième chose, c'est pour ça que je plaidais pour un accord de stabilité, de gouvernement, bref, on se mettait d'accord avec le président de la République sur des grandes orientations, ça ne veut pas dire qu'on était dans la majorité, mais ça veut dire qu'on était des partenaires pour une stabilité. D'ailleurs, le PPE, qui représente la droite républicaine au sein du Parlement européen, ce n'est pas majoritaire absolu. Et donc, vous avez des alliances en permanence. Et je finis simplement.
Parce que ce sera c'est pas qu'en 2027,
ce que je souhaite, c'est un large rassemblement de la droite et du centre, tel qu'on l'a connu, sous Jacques Chirac et sous Nicolas Sarkozy. J'ajoute que dans
incarné
une famille politique,
par Edouard Philippe,
j'ajoute que aujourd'hui, c'est le mieux placé. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, en tout cas, y compris à la région Auvergne-Rhône-Alpes, moi, des collègues et amis qui sont conseillers régionaux reçoivent une lettre d'analyse d'enquête d'opinion chaque mois. La dernière, en date du 29 février dernier, dit que le mieux placé chez les électeurs de droite Et chez les sympathisants LR, ça s'appelle Édouard Philippe, c'est pas moi qui le dis, c'est même des documents internes à la région qui analysent des enquêtes d'opinion. Bref, ce que je veux simplement dire, c'est qu'en fait, vous avez aujourd'hui une dérive, je pense, autoritaire, première chose, parce que ce qui s'est passé là ne s'est jamais passé. On n'a jamais viré Édouard Balladur quand il s'est présenté contre Jacques Chirac au premier tour de la présidentielle, ni tous ceux qui l'ont soutenu. On n'a jamais viré Jean-Pierre Grand, qui était député de l'Hérault à l'époque, qui soutenait Dominique Villepin contre Nicolas Sarkozy. Bref. La force d'une famille politique, c'est de rassembler en arrivant à convaincre, en ouvrant les bras. Comment voulez-vous derrière rassembler les Français? Surtout quand on est dans une situation catastrophique dans notre famille politique.
Désolé d'interrompre votre plaidoyer, mais est-ce que l'appel que vous allez former contre votre exclusion du groupe LR à l'Assemblée, est-ce que ce sera l'occasion, puisque le vote sera plus large, d'arbitrer, est-ce que vous attendez ce moment pour d'arbitrer cette ligne politique?
J'attends
qu'on ait ce
débat.
Est-ce que vous pensez avoir la chance d'être réintégré et de crever l'abcès?
Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse avoir ce débat de façon apaisé.
Mais en termes de rapport de force, vous sentez mieux que cette...
Mais on verra. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, moi, je n'ai pas peur du débat. Je n'ai pas peur du débat d'idées. Vous savez, la politique, si c'est uniquement convaincre ceux qui sont d'accord avec vous, ceux qui sont majoritaires, mais il ne faut pas se présenter. Moi, quand en 2014, je me suis présenté à Rieux-la-Pape, qui était une ville gérée par la gauche depuis des années, des décennies. Enfin, si je pensais ne convaincre que ceux qui étaient d'accord avec moi, j'y serais pas allé. Pareil, si dans la 7e circonscription, qui n'a jamais vu un député de droite gagner, si je me disais que c'était impossible.
Mais là, ce qui est remis en cause par vos collègues, c'est votre position à l'intérieur du groupe, votre loyauté, clairement.
Et c'est pas la loyauté, Lionel Favreau.
Terminer la question. Vous aviez à l'automne fait un dîner avec des maires de l'agglomération.
Déjeuner, oui.
Déjeuner. Comment s'était passé? Qui était venu? Est-ce que vous l'avez reproché à l'époque?
Personne ne me l'avait reproché. Il y avait de nombreux élus des Républicains et de l'agglomération lyonnaise entrant dans de la droite et du centre, voire même du centre-gauche, qui étaient venus rencontrer Édouard Philippe. Ça n'avait posé de problème.
Est-ce que vous pensez qu'avec cette exclusion, on veut vous isoler aussi au niveau lyonnais?
Mais vous pensez, vous savez, je vais vous dire.
Je vous pose une question. Voilà, apparemment,
alors, je vais vous répondre. vous savez, depuis hier, hors période électorale ou victoire électorale, je n'ai jamais reçu autant d'appels de soutien, de marques d'amitié que depuis ces dernières 24 heures.
Et alors de qui? Et de la part de qui?
Parce que c'est intéressant de beaucoup.
Parce qu'on a vu Renaud Muselier, donc qui...
De la part.
On n'a pas entendu d'élus lyonnais.
Bah, vous avez justement entendu d'élus lyonnais, mais vous savez... Alors, vous voulez certainement parler du communiqué de presse qui a été fait. Vous savez, les communiqués de presse...
Par Jérémy Bréau, le président de la
Premièrement, je tiens à le dire ici, Jérémy Bréau est un ami personnel. Il l'est. Et je n'ai pas l'habitude de renier mes amitiés, et lui non plus. Et je tiens à vous le dire aussi, nous nous sommes parlé longuement, il n'y a aucun problème entre moi et Jérémy Bréau, et je vais même vous dire mieux, pour moi, les communiqués de presse faits sous la pression de Paris n'ont aucune sorte d'importance.
Il reprenait effectivement les éléments de langage de Paris, notamment
sur le soutien systématique
au gouvernement.
Je n'ai pas l'habitude.
Est-ce qu'il y en a qui vont se révéler dans les prochains jours, comme soutien d'Alexandre Vincent, ou tout le monde a peur?
Mais pour moi, le plus important, c'est, moi, à la limite... Je parle du principe qu'à un moment, il faut que quelqu'un sorte de la tranchée. Bon, c'est tombé sur moi, c'est pas grave. En attendant, je tiens quand même à le dire. Ce qu'on est en train de voir au sein de la direction des Républicains est extrêmement grave. Parce que finalement, vous qui êtes un fin observateur de la vie politique, vous savez qu'il n'y a pas seulement les discours qui sont importants, mais les actes. Quand dans une famille politique, les Républicains en l'occurrence, et au sein d'un groupe parlementaire, vous avez un député qui, il y a 3 semaines, dit, chez votre collègue Jean-Jacques Bourdin, qu'il faut une alliance LR-RN. Il n'est pas sanctionné. Le lendemain, lors d'une cérémonie commémorative aux Invalides, où je suis présent, devant l'ensemble des caméras de France, il fait la bise à Jordan Bardella, ce député. LR. Quand vous avez des députés qui, lors de la réforme des retraites, votent une motion de censure de l'extrême droite, sont 3, il n'y a pas de réaction. Quand vous avez au sein du parti,
le
président,
c'est ça qu'il faut
entendre. Non mais c'est pire que ça. Quand vous avez le président des jeunes de notre famille politique, Guilhem Carayon, qui va débattre dans un magazine d'extrême droite avec les jeunes avec Zemmour et les jeunes avec Le Pen, et qui vous explique que demain il faut qu'on se réunisse et qu'il n'y a pas de sanctions.
Est-ce que vous craignez une exclusion de LR à la fin?
Ça veut dire qu'à la fin, je veux dire, ils feront ce qu'ils veulent. Moi, je me battrai pour la liberté d'expression de ma famille politique pour qu'on puisse défendre une ligne.
Est-ce que cette exclusion pourrait vous libérer, par exemple, y compris à Lyon, pour faire l'union dont vous parlez?
Mais en tout cas, je veux dire, mais tout le monde a envie de faire les unions. Le problème, c'est que si vous voulez, c'est que les chefs aujourd'hui essayent de retenir du sable avec leurs mains. Pour une bonne et simple raison. Regardez ce qui se passe à Paris. Regardez ce qui se passe à Marseille. Et regardez aussi les déclarations des uns et des autres à Lyon et sur la métropole de Lyon. Mais vous pensez que personne n'a envie de se réentendre, de se réunir autour de la table? Je le dis encore une fois, la politique, c'est quoi? C'est deux choses. Déjà, premièrement,
attendez,
c'est l'art de rassembler, mais au-delà de ça, c'est l'art de dépasser ses frontières.
Mais sur...
Ça, c'est gaulliste.
Sur la, les LR donc menés par, par Laurent Wauquiez, donc ce que vous dites, qu'est-ce que ça dit du parti? Est-ce que ça veut dire que la frontière qui est censée être étanche avec l'extrême droite, elle ne l'est plus aujourd'hui?
Ah bah, écoutez, c'est simple. Il y a une analyse, j'ai pas besoin d'avoir fait des grandes études, Elena, pour que quand vous voyez qu'un élu qui dit « Moi, je souhaite qu'on se rapproche de quelqu'un qui, fasse par, qui fait partie de notre famille politique », c'est encore une fois, je ne suis pas le seul à le dire, Gérard Larcher l'a dit, et d'autres, parce que c'est la meilleure chance, un, d'éviter l'extrême droite au pouvoir, et donc le saut dans l'inconnu pour notre pays, avec tout ce que ça peut engendrer derrière, et de l'autre côté, des élus qui disent « Il faut qu'on se rapproche plutôt de Marine Le Pen », ou en tout cas, de se tourner vers l'extrême droite, ce qui est à rebours d'ailleurs de toute l'histoire de la droite française. Et républicaine.
Donc ça veut dire que LR
quand vous en avez un qui est exclu et que les autres n'ont même pas un début de recadrage, bah ça veut dire qu'à partir de là, vous en avez certains.
Est-ce que
vous en avez certains. Et attention, pas tous. Je dis bien certains de nos chefs qui veulent nous emmener là. Au-delà de ça, et je tiens à le dire par contre, c'est que, vous savez...
Laurent Wauquiez, il en fait partie de ceux qui veulent...
Je parle de nos chefs, donc vous mettez dans les chefs tous ceux que vous voulez. Je dis simplement par contre que pour mes collègues parlementaires, mais aussi pour tous mes collègues maires avec qui je partage des combats depuis des années. Je veux dire, il n'y a rien qui change. Parce que je sais d'où ils viennent, je sais qui ils sont, et eux aussi savent d'où je viens et savent qui je suis.
Mais vous, personnellement.
Et je vais vous dire une chose, il n'y a rien qui changera avec mes collègues et amis LR. Et vous savez, j'ai eu quasiment tous les maires LR de l'agglomération depuis hier au téléphone qui m'ont tous fait part de leur soutien, de leur amitié. J'ai des militants, j'ai des élus de tous bords.
Donc
aussi.
Le communiqué donc, des Républicains du Rhône, il ne va rien dire.
Hein. Bah, c'est pour ça que je vous dis que les communiqués qui sont imposés aux forceps par Paris n'ont aucune sorte d'importance.
Pourquoi ils ne font pas publiquement? Est-ce qu'ils ont peur d'une sanction qui ressemble à la vôtre? Est-ce que vous, vous sentez bien dans LR? Est-ce que ce ne serait pas plus clair par rapport à ce que vous dites?
Mais c'est la famille politique que j'ai toujours
connue. D'en partir.
Mais vous savez, il y a un moment, quand vous reprenez l'histoire de notre famille politique...
Est-ce que vous posez la question de partir de LR?
Mais moi, j'ai connu, par exemple, au tout début de ma jeune vie de militant, et reprenez vos archives, quand Nicolas Sarkozy avait soutenu Édouard Balladur en 1995, il passait les travées des meetings, et peut-être que les plus anciens de nos militants chez LR s'en souviennent, il se faisait cracher dessus. Cracher dessus. Parce que pour autant, il est parti. Jamais. Parce que je pense qu'à un moment, on a le droit de débattre, on a le droit de défendre une ligne. Enfin, si dans un parti politique, vous n'avez plus de débat interne, si vous avez un grand recroquevillement plutôt qu'un grand rassemblement, mais c'est la fin de cette famille politique. Et au-delà de ça, je vais vous dire, rassembler, ne pas exclure, c'est un aveu de force. Mais exclure pour un désaccord politique, c'est un immense aveu de faiblesse. D'ailleurs, hier,
si,
à un moment,
si vous soutenez, j'ai une parlementaire... Est-ce que Sébastien Michel n'aurait pas pris la parole si vous soutenez, par exemple, le maire d'Écully?
Mais j'ai une parlementaire...
Est-ce que c'est pas gênant de les faire parler alors qu'ils ne sont pas exprimés?
Mais après, ceux qui voudront s'exprimer, s'exprimeront. Je ne suis pas là pour les faire parler à leur place, c'est pour ça que je ne donne pas de nom. D'accord, mais... Ils se reconnaîtront et j'ai aucun problème avec ça. Et vous savez, il y a un moment, je pense que le temps de la parole viendra.
Alors, vous voyez prendre la tête d'une liste d'union aux prochaines métropoles?
Voilà, ça c'est une question qui est intéressante.
Mais aujourd'hui, tout est ouvert.
Donc ça veut dire oui, quoi.
Tout est ouvert. En tout cas, je plaide au niveau national comme au niveau local pour un large rassemblement. Les choses sont très claires. Est-ce que la politique, encore une fois, c'est œuvrer pour son territoire, penser à ses habitants, à ses administrés, au-delà des étiquettes politiques? C'est ce que j'ai fait dans ma mairie, c'est ce qu'on fait tous dans nos mairies. Et je pense que l'enjeu métropolitain, demain, on se doit de le porter dans un très large rassemblement. Si on reste chacun dans nos boutiques avec nos petits drapeaux, nous n'y arriverons pas. Et d'ailleurs...
Vous pensez être candidat à la métropole, là, pour 2026?
Je vous dis en tout cas que j'y prendrai ma part. D'accord ? Et que cela fait des mois que je vois les uns, que je vois les autres, qu'on discute. Et en tout cas, sur le principe, en tout cas sur le constat qu'on fait sur la politique menée par les écologistes et l'extrême-gauche, je pense que tout le monde est unanime, c'est un échec.
Parce que l'alliance de 2020 n'a pas fonctionné, même si elle s'est faite en dernière minute.
Attendez, il y a une vraie différence entre ce qui s'est passé en 2020 et ce qui se passera en 2026. En 2020, on a fait un accord entre les deux tours sur un coin de table, d'accord ? Et c'est pour ça que j'étais contre. Pour une bonne et simple raison, même si on va parler aux initiés, c'est que vous laissiez d'un côté David Kimmelfeld tout seul, vous mettiez Gérard Collomb avec Laurent Wauquiez, qui d'ailleurs a dit une fois l'échec fait, ah, c'est pas moi qui l'ai fait, alors qu'il était à la manœuvre du début jusqu'à la fin de les deux tours dans le dos de tout le monde. On a débranché Étienne Blanc et beaucoup de nos amis LR qui n'avaient strictement rien demandé alors qu'ils étaient arrivés en tête. Bref, plus personne n'y comprenait rien. Je pense qu'il faut être clair. Nos électeurs, quand vous faites de la tambouille dans l'entre-deux tours comme ça sur un coin de table, ça peut pas fonctionner. Par contre, à mon sens, si vous le faites dans une nouvelle donne politique, portant un projet pour l'agglomération, pour nos communes, respecter les maires, les identités des territoires, faire en sorte de nouveau que notre agglomération soit un lieu où on puisse se loger, où on puisse se déplacer et plus assigner à résidence. Mais c'est quelque chose qu'on peut porter au-delà de nos étiquettes face à une gauche et une extrême gauche qui sont radicalisées. J'ai toujours pensé et j'ai toujours dit que Lyon et sa métropole ne pouvaient pas se diriger à coup de dogmes, de doctrine et d'oukase.
Mais vous avez remarqué, comme vient de le rappeler Hugo, que Sébastien Michel s'est déclaré candidat à la candidature pour les métropoles. Et lui, il est à LR. Donc est-ce que c'est... Vous êtes
visiblement proche de Laurent Wauquiez, d'Éric Ciotti. Est-ce qu'il est sur cette ligne? Je ne sais pas. À lui aussi de clarifier les choses.
Et le maire du deuxième, Pierre Oliver, vous lui avez parlé?
Bien sûr, mais on s'est encore appelé hier soir, vous voyez, donc il n'y a aucun problème.
Donc pour vous, cette exclusion ne vous isole pas? Vous ne pensez pas qu'à la fin, vous allez être même exclu de LR?
Mais je vais vous dire.
Je vous sens mal à l'aise parfois sur sa ligne politique.
Mal à l'aise sur la ligne politique de LR.
De LR.
Ouais. C'est comme je vous l'ai dit, on a le droit d'avoir.
Vous pensez pouvoir la redresser?
Je pense aujourd'hui que ma famille politique fait fausse route. D'ailleurs, excusez-moi, mais si ça fonctionnait, on aurait gagné les dernières élections présidentielles, les dernières élections législatives, les dernières élections européennes. Alors, soit j'ai loupé quelque chose, ça peut m'arriver.
Donc, il faut plus suivre la politique gouvernementale, c'est ce que vous dites.
Non, mais soit derrière, si ça ne marche pas et qu'on est sur des scores qu'on n'a jamais vus, c'est-à-dire en dessous des 10%, 8% dernières européennes, moins de 5% aux dernières présidentielles. On divise notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale par deux, législative après législative. Alors, si ça ne marche pas, Yaman, c'est peut-être que la ligne n'est pas bonne et qu'il faut voir les choses différemment.
Et la ligne du gouvernement, elle est bonne.
Je n'ai jamais dit que j'étais dans la majorité. Je peux être critique avec le gouvernement. D'accord ? Je dis simplement qu'à un moment, se mettre d'accord autour de la table, porter la culture du compromis, arriver à accepter la différence de l'autre pour arriver à trouver un point de convergence sur des textes essentiels pour les Français. C'est montrer qu'on fait passer, plutôt que les petites guéguerres politiques. Les petites cuisines sur les petits réchauds, où on touille dans les petites gamelles dans les arrière-cuisines, c'est pas ça la politique.
Est-ce
la politique,
c'est justement
essayer de réussir à remporter un nombre de défis pour notre pays et pour nos concitoyens.
Lionel, dernière question. Clairement, est-ce que vous pensez qu'il faut refonder un parti de droite comme l'UEP à l'époque?
Je suis persuadé.
Bon, voilà, on va finir sur ces mots. On aura l'occasion d'en discuter, il y a encore du temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alexandre Vincent Bay.
Merci à vous.
Merci Lionel Favreau. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Lyon Politique.